bonjour et bienvenue à l'écoute des programmes en langue française de Radio Prague. C'est Guillaume Narguet qui a le plaisir de vous présenter le bulletin d'information. Le représentant tchèque auprès du Conseil de l'Atlantique Nord, Karel Kovanda, a été nommé ce mercredi directeur général adjoint pour les relations extérieures de la Commission européenne. Karel Kovanda sera notamment chargé des relations avec certains pays, comme les États-Unis, le Canada, l'Australie ou la Norvège, avec des organisations multilatérales comme l'ONU et de la conception générale de la politique extérieure de sécurité et de défense de l'Union européenne. La Commission européenne a adopté ce mercredi le programme de 5 ans de politique sociale de l'Union européenne présenté par le commissaire tchèque Vladimír Špidla. Le programme établi par l'ancien Premier ministre tchèque va dans le sens de la stratégie de Lisbonne, dont l'objectif est de faire de l'Union européenne une économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable de croissance économique durable, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Une exposition consacrée à Jules Verne a été inaugurée mardi soir à la Bibliothèque nationale à Prague, le 8 février étant la date de naissance de l'écrivain français. L'exposition est consacrée aux innovations techniques décrites dans ses livres par l'auteur de 5 semaines en ballon, Voyage au centre de la Terre, de la Terre à la Lune, de 20 000 lieues sous les mers ou encore du Tour du monde en 80 jours. Le 24 mars prochain, cela fera précisément 100 ans que cet adepte du roman fantastique d'anticipation qui a fait rêver des générations entières de lecteurs est mort. Selon une récente étude réalisée par l'Institut sociologique de l'Académie des sciences de République tchèque, 75% des Tchèques âgés de plus de 15 ans boivent de la bière régulièrement. 90% des hommes et 58% des femmes consomment une boisson présentée en Tchéquie comme étant du pain liquide. Toujours selon la même enquête, les amateurs de bière estiment que le goût et la qualité des produits des brasseries ont évolué positivement depuis 1989. Nous terminons avec un mot de météo. Mercredi, jour de fête des Apolena, le temps a été froid et plutôt maussade en République tchèque. À partir de ce jeudi, les températures sont légèrement en hausse. Des chutes de neige sont attendues en altitude et des averses avec de la neige fondue en plaine. Le thermomètre indique des températures maximales se situant entre moins 2 et 2 degrés. Les automobilistes devront faire attention aux plaques de verglas. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre attention et restez en notre compagnie pour la suite de nos programmes.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinski.
Dans ce magazine d'actualité tchèque, nous évoquerons l'affaire de l'appartement du Premier ministre et le refus de la Chambre des députés d'en discuter. Magdalena Segartová vous présentera des détails sur la pétition qui réclame la réforme du Parti communiste. Jarka Gisubelova s'est entretenue avec le grand couturier Jean-Paul Gaultier en visite à Prague. Alexis Rosenzweig s'est intéressé, lui, à une initiative pour la disparition de ghettos, la réalisation technique de la mission et l'œuvre de Jarka Fikarlova. La Chambre des députés n'a pas voulu discuter, lors de sa séance de mardi, de la question du financement de l'appartement du Premier ministre Stanislav Gross, un financement que les médias soupçonnent toujours d'être occulte. Les députés de la coalition gouvernante sociaux-démocrates, chrétiens-démocrates et unionistes ont dit non au projet. Présent forte formation de l'opposition de droite, le Parti civique démocrate d'inclure cette question au programme de la séance. Le chef du gouvernement n'a donc pas été obligé de répondre aux questions des députés, mais il a quand même pris la parole. Dans son intervention à la tribune, il a déclaré qu'il n'avait jamais menti ou tenté d'embrouiller les choses. S'il avait su que la question du prêt de son oncle pour l'achat de son appartement allait susciter une telle discussion, il n'en aurait pas parlé, n'aurait pas dévoilé son nom. Le Premier ministre Stanislav Gross n'a pas présenté de documents. D'un autre côté, il a confirmé qu'il poursuivrait en justice le quotidien Mladá Fronta Dnes et l'hebdomadaire Respect, qui auraient publié des informations inexactes sur son patrimoine. Il a affirmé aussi qu'il se soumettrait à l'examen de l'Office national de sécurité et que les affaires de la société de son épouse seront l'objet d'un contrôle fiscal. Une partie des députés sociaux-démocrates et des communistes a affirmé que toute l'affaire était montée par les médias et qu'il était nécessaire de modifier la loi sur la liberté de la presse. Le quotidien Lidové Novini ajoute encore un peu de poivre à la sauce en révélant que la personne qui a fourni une partie de l'argent à l'oncle qui a prêté au Premier ministre serait un malade mental. Il s'agit d'un ancien journaliste de Mladá Fronta Dnes, Rostislav Rod. Cette information n'a pas été confirmée par les milieux psychiatriques de la ville où il est domicilié, mais ajoutant encore un doute aux déclarations du chef du gouvernement. Excluons les communistes. Tel est le nom d'une pétition lancée cette semaine par un groupe de personnalités engagées dans la vie publique. Ses signataires, qui sont à ce jour plus de 3500, manifestent ainsi leur soutien au sénateur Martin Maestrich et Jaromir Stetina, instigateurs d'une modification du code pénal visant à interdire la propagation des symboles et de l'idéologie communiste. Les détails avec Magdalena Segertova.
Il ne s'agit pas d'une tentative de dissoudre le Parti communiste de Bohême et de Moravie, affirment les sénateurs, ni de le mettre hors la loi, mais de le pousser à reconnaître enfin les crimes commis avant 1989, à se réformer. Si cet amendement au code pénal était adopté par le Parlement, le Parti communiste serait d'abord obligé de changer de nom. Pour le chanteur, traducteur et poète Jiří Dědeček, signataire de la pétition, cette mesure législative a plutôt une valeur symbolique.
Je crains qu'il y a peu de chances que ça pourrait changer quelque chose, parce que même monsieur le député, monsieur Stetina, a dit qu'il ne s'agit que des changements, disons, comment dire, en tchèque cosmétique, c'est-à-dire changement de nom, de nom communisme, abolissons le nom, a-t-il dit. Pas les gens, il ne s'agit pas de pendre les gens et de détruire les familles des communistes. Alors le changement sera presque invisible pour la plupart des gens, mais d'autant plus significant parce que c'est un symbole de quelque chose. Le mot communisme, le parti communiste, etc., etc., c'est le symbole du passé et tant que ça persiste dans notre société, ça justifie le passé communiste. Alors, en ce cas-là, le passé communiste ne sera plus justifié. C'est ce que j'attends de cette pétition. Ce n'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est suffisant.
Mais peut-on, par ces démarches judiciaires, faire transformer le Parti communiste en une formation de gauche moderne, comme le souhaitent les sénateurs Stetina et Maestrich, Jiří Dědeček?
Je ne crois pas que les gens puisse se réformer, se modifier comme le nom du parti. Alors, je préférerais l'abolition du parti, pas seulement l'abolition du mot communisme. Et il y a encore un problème, c'est le problème des communistes, des ex-communistes, qui aujourd'hui persistent dans presque tous les partis politiques et qui ont rompu avec leur passé, mais pourtant ils ont le communisme tellement profond dans le sang, dans les pensées, qu'ils se comportent d'une manière vraiment communiste et qui, comme par exemple M. Skomar du Parti Socialiste, déclare ouvertement qu'il faut vraiment faire la paix avec les communistes dès maintenant, etc., etc. Alors, les ex-communistes dans les partis, c'est un autre problème et peut-être beaucoup plus important.
L'un des plus grands couturiers et créateurs de mode contemporain, Jean-Paul Gaultier, présente ce mercredi soir dans la salle espagnole du château de Prague une rétrospective de ses collections hautement conçues pour le public. À cette occasion, Prague est, après Paris, la première ville où l'on peut voir aussi une partie de sa dernière collection, il y a 15 jours, dans la capitale française. Jarka Gisubelova a assisté à la de presse donnée mardi par Jean-Paul Gaultier.
Plus d'une centaine de journalistes et caméras patients ont attendu au Palais Palfi l'arrivée de Jean-Paul Gaultier, qui est une marque qui fêtera l'an prochain ses 30 ans. Marque introduite en 2017 dans le cercle fermé de la haute couture et caractérisant la spiritualité, l'extravagance et le métissage de style. Pour la liberté absolue de porter ce qu'il veut, Jean-Paul Gaultier est apparu devant les juste par une espèce de politesse, comme il a dit, un uniforme Gaultier. Maillot marin, l'un de ses vêtements fétiches, à côté des corsettes, des tailleurs masculins pour hommes.
Alors je voudrais dire d'abord à quel point je suis ravi d'être ici, la première fois que je viens dans la ville. Quant à Prague, une ville comme projet, une ville de mode, je pense que Prague, déjà à la base, est au-delà de la mode, du fait que c'est une ville merveilleuse et romantique, et que le romantisme lui dépasse toutes les modes. Donc voilà, je voulais simplement dire que j'étais absolument ravi d'être là et de présenter justement des modèles et de me présenter en fin de compte à Prague, parce que par les vêtements que je vais montrer un petit peu toute ma carrière. Mais mis à part la beauté de la ville mis à part la beauté de la ville qui est indiscutable et extraordinaire et très inspirante, il y a aussi une autre denrée qui vient donc de Tchécoslovaquie, enfin de Slovaquie et de Tchéquie. Ce sont aussi les mannequins qui sont aussi bien femmes que hommes.
À la question de savoir s'ils accepteraient une collaboration avec les cinéastes tchèques, Jean-Paul Gaultier, dont on connaît les créations de costumes pour des films comme Les Liaisons dangereuses ou Le cinquième élément, a répondu.
Pour faire des costumes pour un film ? Mais bien sûr. En plus, il y a beaucoup de films qui se font faire ici, je crois. Il y en a énormément, donc voilà. Pour l'instant, je crois, avec mes collaborations que j'ai eues avec des metteurs en scène, je ne crois pas que les films dans lesquels j'ai travaillé, pour l'instant, aient été faits encore en Tchécoslovaquie. Alors voilà, ça serait une bonne occasion. Ouais. De toute façon, dans mes projets pour la visite de Prague, je sais que je ne crois pas que j'aurai le temps cette fois-ci, mais la prochaine fois, quand je reviendrai, je veux visiter des studios où ont été tournés le Cyrano de Bergerac, entre autres.
Comment est née sa dernière collection ? Pourquoi va-t-elle aussi loin dans le passé ?
Bien, ma dernière haute couture, c'était pas le passé, c'était un peu l'Afrique et le métissage. Ça, c'est la réponse déjà à ma dernière haute couture. C'était pas le passé, c'était un métissage et l'Afrique. Je dirais qu'en général, tout le travail que je fais, que vous allez voir, même là, c'est vrai que l'inspiration, il y a le passé. Mais au total, j'essaye pas de faire la copie du passé. C'est plutôt un métissage avec le présent. C'est-à-dire que moi, je ne peux traduire le passé qu'en le faisant aujourd'hui, c'est-à-dire en le rendant aujourd'hui. C'est mon rôle aussi, je crois. Le passé fait partie de notre éducation, donc c'est quelque chose qu'on peut avoir en soi, mais que l'on transforme autrement du fait des changements, de la société, de tout qui bouge et tout qui a changé.
Et l'avenir de la mode, Jean-Paul Gaultier.
C'est difficile à dire pour l'instant parce que c'est un moment charnière, je crois. C'est un moment de grand changement, de changement total, sociaux, économiques. Le luxe, comment va évoluer le vêtement, d'un côté, je sais pas, très luxueux, et de l'autre côté, au contraire, hyper diffusé. C'est en train de se faire, donc je crois qu'il faut être attentif et ressentir un petit peu ce qui se passe pour voir et décider, pour vivre avec les bonnes décisions qui doivent se faire en ce moment. Parce que je crois que quand même, à la base, la mode, c'est pas la vision d'un artiste. C'est la mode, c'est avant tout, ce sont des vêtements ou une façon d'être et de vivre qui doit correspondre à l'époque. Donc on doit être le reflet de ça. On doit plutôt faire des propositions des suggestions par rapport aux envies des personnes et besoins des personnes. Donc notre travail, c'est de digérer et de ce qui se passe et d'essayer de correspondre aux demandes et ne pas faire ses propres fantaisies, je crois.
Faire disparaître ou liquider les ghettos tchèques, c'est ainsi que l'on pourrait traduire la nouvelle campagne de l'organisation humanitaire rattachée à la télévision tchèque « L'homme en détresse ». Attirer l'attention sur les conditions de vie dans certaines banlieues et localités du pays, c'est le but de cette campagne. Pour obtenir quelques explications supplémentaires, Alexis Rosenzweig s'est adressé aux responsables du projet.
Lorsque sont évoqués les ghettos ou les enclaves de pauvreté dans la région, on parle davantage de ces localités de Slovaquie orientale qui vivent hors du temps et où la population est dans l'isolement et le dénuement le plus complet. L'Homme en détresse, une organisation également présente en Slovaquie, a cette fois-ci voulu alerter l'opinion sur la situation dans certaines localités de République tchèque, Martin Šimaček.
Na základě téhleté naší zkušenosti jsme se rozhodli udělat kampaň, která
Avec l'expérience que notre organisation a acquise sur le terrain, nous avons décidé de lancer cette campagne d'information sur la vie dans ces enclaves de pauvreté, ces ghettos. Nous voulons toucher le maximum de gens à l'aide d'affiches, d'encarts, dans les journaux et sur notre site internet afin de leur décrire de quoi a l'air la vie dans les ghettos et de leur expliquer pourquoi ceux qui vivent y restent. La pauvreté, le manque d'éducation, de qualification, la difficulté d'accès au marché du travail, parfois les problèmes liés aux usuriers, aux loyers élevés, etc.
Les ghettos dont parle Martin Šimaček sont souvent situés à la sortie des villes ou en pleine campagne, principalement dans le nord de la Bohême et de la Moravie, et quasiment exclusivement peuplés de Roms.
Je ne pense pas que c'est un nouveau phénomène. Il y a
Je ne pense pas que ce soit un phénomène complètement nouveau, mais avant, sous le communisme, ce n'était pas possible d'avoir tant de personnes à l'écart du marché du travail. Depuis 1990, tout a changé et les chômeurs de longue durée représentent aujourd'hui 5% de la population active. Ces personnes perdent progressivement tout contact social. Nous ne nous en sommes pas assez souciés au début des années 90 et en 15 ans, le problème a pris une ampleur que nous n'avons su anticiper.
Les représentants de 8 pays de la région se sont réunis la semaine dernière à Sofia, en Bulgarie, pour tenter de trouver des moyens afin d'insérer la minorité rome dans leurs sociétés respectives. L'Homme en détresse, l'une des organisations humanitaires tchèques les plus actives, souhaite avant tout informer pour que la population prenne d'abord conscience des problèmes avant d'envisager des solutions adaptées.
Attirer l'attention des gens est important. Nous constatons que jusqu'à maintenant, le problème a été traité de manière superficielle. On parle de gens non insérables, de mauvais payeurs, neplatici, un nouveau terme qui désigne ceux qui ne payent pas leur loyer. Mais on ne parle pas dans notre société des causes de cet isolement social, des conditions de vie, et quelles sont leurs chances d'en sortir. Et parce que ces informations ne sont pas mises à la disposition du public, avec cette campagne, nous voulons lancer le débat sur la base des informations plus précises. Nous espérons que cela amènera ensuite une discussion sur les moyens de venir en aide aux personnes vivant dans le ghetto. Pour l'instant, nous avons recueilli deux types de réactions. Sur nos pages Internet, nous recevons des messages racistes de gens qui considèrent qu'il s'agit d'une catégorie qui ne pourra jamais être intégrée normalement dans la société. Et de l'autre côté, des personnes nous écrivent pour nous proposer leur aide, des personnes qui veulent aider à trouver une solution, mais qui sont un peu désespérées et ne savent pas comment. Et on ne peut pas dire, même si nous n'avons démarré que depuis une semaine, que les médias du pays s'y soient encore réellement intéressés. J'espère que cela va changer dans les prochains jours.
C'était Faits événements. Voici maintenant la suite du programme de Radio Prague.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
Lundi prochain, Prague commémorera le triste 60e anniversaire du bombardement aérien de la ville par les alliés américains et britanniques. Le mercredi 14 février 1945, des bombes ont été lâchées sur le centre de Prague, laissant derrière elles 700 morts et près de 1500 blessés, des maisons, des églises, des écoles et des hôpitaux en ruine. Cet enregistrement authentique du son des cloches et des sirènes provient des archives sonores de la radio tchèque. Celle-ci garde aussi un reportage sur l'image de Prague après le bombardement réalisé par le reporter Josef Cincibus.
V těchto ulicích je příliš mnoho utrpení a příliš mnoho bolesti. Včera jsme plně pochopili.
Beaucoup trop de souffrances et de douleurs sont présentes dans les rues de Prague. Hier, nous avons compris et vécu le sens du mot « terreur ». Nous avons compris et vécu, nous, qui n'avons jamais voulu croire qu'un malheur pareil puisse s'abattre aussi sur nous. À Prague, des incendies ne sont pas encore éteints. La fumée se répand des maisons, des écoles, des églises, des hôpitaux. Nous n'avons pas encore retiré les cadavres des ruines. Des enfants qui pleurent, des gens désespérés, des blessés, des survivants auxquels il n'est resté que ce qu'ils ont sur eux, des ruines, du verre cassé, des meubles brûlés, du feu, de la fumée qui pique les yeux. Voilà l'image des quartiers pragois. À droite de moi, le couvent d'Emmaüs en flammes. Je m'approche pour réaliser l'étendue des dégâts. L'horloge s'est arrêtée au moment du raid, à 12h32. Mes yeux regardent le lieu où se trouvait le bijou précieux des Emmaüs. Dans 2 ans, 600 ans se seront écoulés depuis sa fondation par Charles IV. Je pense aux fresques bibliques de l'époque de Charles, aux 3 nefs gothiques de l'église. Je regarde et je prie pour que la peinture murale dorée de Saint-Joseph ne soit pas entièrement engloutie par les flammes. En effet, le complexe gothique du couvent d'Emmaüs, entièrement détruit par 3 bombes lourdes, est devenu le bâtiment symboliquement le plus lié au désastre. Beaucoup d'autres bijoux artistiques et architecturaux de Prague ont été endommagés. L'église Saint-Venceslas de Zderas, le bâtiment du théâtre na Vinohradech, la maison Faust, le pont Palacký. Des centaines de maisons d'habitation dans les quartiers de Vinohrady, Vršovice et Nusle sont tombées en ruine. Le nombre important de victimes, 700 morts et 1500 blessés, est dû au fait que l'alerte aérienne pour prévenir la population était donnée trop tard. Les sirènes ont sonné à 12h20 et pratiquement au même moment, les premières bombes ont été lancées. Le bombardement a duré 3 ou 4 minutes. L'alerte a été levée à 13h10, mais Prague était en flammes encore 3 jours plus tard. La plupart des pompiers pragois sont partis, apportaient l'oreille à Dresde bombardée la veille avec une intensité sans comparaison. 3 raids nocturnes et 2 autres dans la journée ont réduit la ville en champ de ruines. Selon certaines sources, Prague a été bombardée par erreur. On ne peut évidemment exclure que les 62 bombardiers américains B-17 de la 8e armée de l'air se soient trompés. Or, le ciel clair qui régnait ce 14 février 1945 sur Prague, ainsi que la situation géographique de la ville, difficile à confondre avec une autre ville, met en doute cette hypothèse. Le bombardement aérien du 14 février s'inscrit au nombre des bombardements de grandes villes du Troisième Reich allemand que les alliés américains et britanniques effectuaient dès l'année 1942. Déjà le 15 novembre 1944, Prague est devenue leur cible. Des bombardiers américains ont alors lancé des bombes sur la centrale thermique de Holešovice. Le reportage de Josef Cincibus nous présente ensuite la situation devant l'église Sainte Ludmila, lieu des funérailles des victimes des bombardements.
Rozlehlé náměstí velké pražské čtvrti. Štíhlé věže chrámu, chrámové schody.
Une grande place pragoise, les tournées élancées de l'église, l'escalier devant lequel les cercueils noirs sont alignés. Prague fait ses adieux aux victimes de l'attaque meurtrière venue du ciel. On voit arriver les membres du gouvernement du protectorat de Bohême-Moravie, avec en tête son président Richard Binert, les représentants du ministre d'État allemand et le maire de Prague, le docteur Žiha, qui prend la parole.
A s nevýslovnou bolestí v srdci skláním se jménem hlavního města Prahy.
Dans l'immense tristesse, avec une douleur indescriptible dans nos cœurs, nous nous inclinons devant les victimes innocentes du bombardement terroriste entrepris sur notre ville si chère. Le mercredi des cendres, qui est le premier jour du carême et où tous les chrétiens se retournent sur soi pour chercher ce qui est de meilleur en eux, le mal sombre a fait son apparition. Mères et enfants, pères et fils, les êtres les plus chers, ont été insidieusement assassinés. Prague, ville chantée par les poètes, admirée par les étrangers, la Prague royale, dont l'histoire millénaire est connue de l'ensemble du monde culturel est en deuil. Prague, édifiée par d'innombrables générations et citée parmi les bijoux historiques les plus rares au monde, a été durement frappée.
A ještě řazeno mezi nejzácnější skvosty světa bylo zle postiženo.
Après le bombardement du 14 février qui a profondément choqué les Pragois et dont on croyait qu'il était le dernier, deux raids de moindre intensité ont été entrepris les 2 et 3 mars. Le 25 mars 1945, les bombardiers américains sont une fois de plus apparus au-dessus de Prague, lançant leurs charges destructrices sur la partie nord-est où se trouvaient des entreprises industrielles d'importance stratégique pour la guerre. Plus de 68 usines ont été détruites dans les quartiers de Vysočany et Libeň, dont les usines mécaniques Českomoravská, Kolben, Daněk. Les raids ont fait des dégâts matériels énormes, ainsi que 250 morts et 500 blessés. Le fait que c'était un dimanche et que les employés n'étaient pas au travail empêchait que les pertes ne soient pas plus lourdes. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine sur Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Australia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz and at